Les podcasts de l'Institut de France. L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
L'année 2026 marque le cinquantenaire de la disparition du biologiste Jacques Monod. Et c'est peu dire que cet anniversaire mérite qu'on s'y arrête. Ce pionnier de la biologie moderne a été récompensé en 1965 par le prix Nobel de physiologie ou médecine pour ses travaux sur les gènes qui ont révolutionné notre compréhension du vivant. Alors oui, ce sont des travaux complexes, mais qui valent qu'on s'y penche, car ils nous révèlent aussi quelque chose d'essentiel sur l'homme qui les a menés. Car Jacques Monod était bien plus qu'un scientifique. Résistant pendant la guerre, ce fut aussi un grand musicien, un alpiniste et un écrivain. Son livre « Le hasard et la nécessité » est une œuvre philosophique importante. Jacques Monod, c'est donc une carrure intellectuelle et morale tout simplement hors du commun. Et pour explorer toutes ses facettes, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui des scientifiques qui ont eu la chance de le côtoyer. À commencer par vous, Maxime Schwartz, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, vous aussi, correspondant de l'Académie des sciences. Et vous avez été directeur de l'Institut Pasteur à Paris. Et vous avez connu Jacques Monod, puisqu'il a dirigé la thèse de doctorat que vous avez soutenue en 67. Pour commencer, quel souvenir gardez-vous de l'homme qu'il était ?
Jacques Monod, il se trouve assez curieusement que je l'ai rencontré avant d'entrer à l'Institut Pasteur, parce qu'il était musicien, comme vous l'avez mentionné, et ses fils, qui était aussi musicien, était dans une classe préparatoire à côté de la mienne, à Janson-de-Sailly. Et donc j'ai fait de la musique avec ses fils, et même une fois dirigé par Jacques Monod. Mais quand ensuite je l'ai revu pour des raisons professionnelles, je n'avais pas fait le rapport, et j'étais tout étonné de me retrouver devant lui. Donc si je suis arrivé chez Jacques Monod, c'est que, puisque j'ai fait l'école polytechnique, je m'interrogeais un petit peu sur mon avenir. Et un polytechnicien, un ancien, chargé d'aider les jeunes, m'a conseillé. Je savais que je voulais faire ce qu'on appelait les sciences naturelles. À l'époque, le mot biologie était moins utilisé. Mmh. Et il m'avait donné une liste de 3-4 personnes à aller voir. Et parmi elles, il y avait Jacques Monod.
Donc c'est vous qui l'avez contacté.
Donc j'ai contacté Jacques Monod. Et Jacques Monod a été très intéressé parce que c'était un moment où il se rendait compte que c'était intéressant d'attirer vers la biologie des gens qui avaient été formés aux sciences exactes. Mmh. Et pour moi, je dirais d'ailleurs, si on parle des scientifiques, il a été vraiment le directeur de thèse idéal, parce qu'il n'était pas du tout sur mon dos, il venait pas sans arrêt me dire « alors où t'en es ?» etc. Il faut dire d'ailleurs que je n'ai pas du tout pris la voie qu'il avait prévue, mais ça c'est un détail. Donc il n'était pas du tout sur mon dos, mais à chaque fois que j'avais besoin de lui, il était là. J'allais frapper à son bureau, il m'ouvrait. Donc quand j'avais besoin de conseils, il me donnait des conseils.
Et il s'est montré très présent.
Il était toujours très présent, même après le prix Nobel. À ce moment-là, j'avais presque fini ma thèse, mais vraiment l'idéal pour un directeur de thèse.
Et vous vous souvenez des premières impressions qu'il a pu vous faire quand vous l'avez rencontré pour la première fois ?
Ce qui m'impressionnait le plus, c'était quand même d'entrer dans la biologie, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun enseignement de biologie à l'école polytechnique. J'étais attiré par ce domaine parce que, bon, dans ma famille, j'avais par exemple un grand-père chirurgien. J'ai un grand-oncle qui était Robert Debré, qui était donc un pédiatre très connu. Donc, et mon père lui-même, Daniel Schwartz, très connu dans le milieu médical, était aussi un polytechnicien qui était allé vers la biologie. Mmh. Donc j'étais un peu dans cette ambiance-là. Et moi aussi, j'ai eu envie de faire la biologie. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu finalement faire la rencontre de Jacques Monod.
Mais alors vous descendez d'une famille de scientifiques, de médecins. Est-ce que c'était le cas aussi pour Jacques Monod, parce qu'il est né en 1910. Son père était peintre, historien de l'art. A priori, il n'y a pas de filiation scientifique. Est-ce qu'on saurait expliquer pourquoi Jacques Monod s'est tourné vers les sciences après le bac ?
Ça, j'avoue que j'aurais du mal à l'expliquer. C'est vrai, il n'était pas du tout comme moi, d'une certaine façon. Famille d'artistes, bon, il vivait à Cannes à l'époque. Et je ne saurais pas dire exactement pourquoi il s'est tourné vers la biologie. Je ne peux pas répondre à cette question.
Un mystère. En tout cas, au début de sa carrière de jeune scientifique, il part faire des explorations au Groenland, par exemple. C'est un homme qui, voilà, au début de cette carrière, qui explore au sens propre du terme avant de trouver sa vocation, parce qu'il ne sait pas tout de suite investi dans l'étude des bactéries, des micro-organismes qui feront sa renommée plus tard. Racontez-nous un peu ces explorations, ces premières explorations qu'il fait au tout début de sa carrière.
Bien, il a fait ses études donc à la fin des années 1920. Mmh. Après avoir passé son bac en 1928, il a voulu apprendre la biologie. Donc c'est là, je ne sais pas exactement pourquoi il l'a fait. Il s'est rendu à la station marine de Roscoff,
en Bretagne,
où il a pu rencontrer des gens qui ont joué un rôle important en biologie. Il y avait Georges Tessier, André Lvoff, Boris Efroussi, Louis Rapkin, etc. Et il a commencé à travailler quand même tout de suite sur des micro-organismes, des parasites. Il a été faire un stage chez un parasitologue de l'époque qui était connu, Édouard Chaton, qui travaillait à Strasbourg. Donc il a commencé à travailler sur la culture des ciliés, qui est une certaine catégorie donc de ces micro-organismes.
Donc c'était là quand même au début de sa carrière, l'étude des micro-organismes.
Il a tout de suite commencé embarqué sur le Pourquoi pas, qui était donc le bateau de Charcot, et il a participé à une expédition au Groenland, où là, il ne s'agissait pas effectivement de micro-organismes. Il a un peu recueilli des informations sur la vie là-bas au Groenland, des différents points de vue. Et alors, ce qui a été très important, c'est qu'il comptait l'année suivante. La première fois, c'était en 1934, et il a voulu partir pour une deuxième expédition en 1936, pour le Groenland à nouveau. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il a rencontré un grand généticien, Boris Efroussi, qui était d'origine russe, mais qui ensuite a travaillé en France. C'est un peu lui qui a introduit la génétique, en France. Et Boris Efroussi a convaincu Monod que la génétique, c'était très important et qu'il ferait mieux de faire de la génétique plutôt que de partir sur le pourquoi pas.
Il l'écoute. Monod l'écoute.
Il l'écoute d'autant plus que Efroussi se débrouille pour lui obtenir une bourse qui lui permet d'aller passer un an aux États-Unis, au Caltech, chez Morgan. Et Morgan, c'est le père de la génétique en général. C'est lui qui a travaillé avec les drosophiles et qui a vraiment montré que les gènes étaient le site des mutations, etc. Et Donc, Monod est parti avec Efroussi en Californie.
Et il a
pendant
bien fait.
Ce temps, le pourquoi pas a fait naufrage. Et si donc Monod était parti, sa vie se serait arrêtée là.
Parce que tout le monde est décédé dans les parties,
personne n'a survécu au naufrage.
Donc, Boris Efroussi a en quelque sorte sauvé Jacques Monod.
Boris Efroussi a sauvé la génétique et Boris Efroussi ont sauvé Monod.
Alors Jacques Monod va se lancer dans une discipline qui reste encore à inventer, la biologie moléculaire, qui consiste à comprendre le vivant, comment le vivant fonctionne de l'intérieur. Ça, c'est tout nouveau. On ne parle pas du tout de biologie moléculaire. Même de biologie, vous disiez au début de l'interview, ce n'est pas un terme qu'on connaît.
Non, alors là, vous sautez quand même des étapes. Il n'est pas passé directement du pourquoi pas la biologie moléculaire.
Comment ça s'est fait ?
En fait, il a rencontré André Lvoff, de l'Institut Pasteur, qui l'a convaincu de travailler avec des organismes qui étaient plus faciles à manipuler, qui poussaient plus facilement, notamment des bactéries. Et donc, Monod a commencé à travailler avec des bactéries. Et alors, il a fait des travaux très importants sur la croissance des cultures bactériennes. On ne savait pas trop, on n'y connaissait rien à l'époque. Il a fait beaucoup de choses sur la croissance des cultures bactériennes. Et c'est là-dessus qu'il a en fait soutenu sa thèse. Ça devait être en 1941. Mmh. Et sa thèse, ça s'appelait « Recherche sur la croissance des cultures bactériennes ». C'est un grand classique. Et il se trouve que Lvoff était l'un des membres du jury, mais il y avait aussi un représentant de l'Académie des sciences. C'était là, à ce moment-là, Monod travaillait dans un laboratoire de l'Académie des sciences. Et cette personne de l'Académie des sciences a dit à Lvoff « Ce que fait Monod n'intéresse pas l'université ». Donc, les bactéries, ça n'intéressait personne.
À l'époque.
En tout cas, pas l'université. Donc, je vous ai dit, c'était en 1941. 1941, la guerre était déjà commencée. Et ça a été une période où Monod a pu continuer un peu à travailler, mais surtout où il est entré dans la résistance. Mais il faut savoir que ce sont ses travaux sur la croissance des cultures bactériennes qui l'ont fait entrer dans ce qu'on a appelé après la biologie moléculaire. Mmh. En effet, il a observé un phénomène extrêmement curieux. C'est quand il prenait ces bactéries, qu'il mettait dans le milieu un mélange de deux sucres, leur servir donc de substrat, eh bien, ils observaient souvent une phase de latence, c'est-à-dire qu'il y avait une croissance, et puis la croissance s'arrêtait, et elle repartait un peu plus loin.
Ça, c'est très important, c'est vraiment l'expérience fondatrice qu'a faite Jacques Monod. Et il prend une bactérie, il leur donne à manger deux sucres.
Voilà, et il constate qu'il y a une phase de latence, et il comprend très vite qu'en fait, les bactéries commencent par manger l'un des sucres, et puis quand ce premier sucre est mangé, il y a une petite période de latence, et puis ça redémarre et il mange le deuxième sucre.
Et il se demande pourquoi il y a cette période de latence, de pause.
Il a appelé ça la dioxie. Oxie, c'est la croissance, ça veut dire qu'il y a une double croissance, une croissance en deux phases. Et donc, une grande partie de ses travaux ensuite viseront à essayer de comprendre comment ça se faisait que les bactéries commençaient par manger un sucre et puis mangeaient
et mangeaient l'autre
sucre après.
Est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre pourquoi cette expérience qui paraît simple, entre guillemets, marque une révolution en biologie ?
Oui, ben donc il s'est agi de comprendre à quoi c'était dû. Alors il a d'abord étudié les enzymes qui permettaient de manger ces différents sucres. Et par exemple, c'est important, il avait fait des expériences avec la bactérie Escherichia coli ou le colibacille, et il constatait que si on leur donnait par exemple du glucose et puis du lactose, eh bien, tant que les bactéries poussaient sur du glucose, l'enzyme servant à utiliser le lactose n'était pas là. Et puis, une fois que les bactéries commençaient à utiliser le lactose, à ce moment-là, on voyait qu'il y avait l'enzyme permettant de manger, d'utiliser, métaboliser le lactose apparaissait. Donc, ça a été un peu le point de départ. C'est la notion qu'on avait des enzymes dont l'apparition était dépendante de la présence du substrat, en l'occurrence le lactose.
Et ça, cette expérience, elle est transposable aux gènes. Et ce que Jacques Monod a découvert, c'est que nos gènes ne s'expriment pas tous en permanence, mais qu'ils disposent comme d'un interrupteur qui les active ou les éteint selon les besoins de la cellule.
Oui, c'est un peu complexe à comprendre. Ils n'ont pas compris ça tout de suite, parce que au début, ils n'ont pas compris que c'était au niveau des gènes. Ils pensaient qu'il y avait peut-être un précurseur protéique qui pouvait être converti en bêta-galactosidase, lactase, c'est l'enzyme qui mangeait le lactose. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'ils ont compris que l'apparition de l'activité de la bêta-galactosidase correspondait au démarrage de l'activation du gène. C'est-à-dire que le gène codant l'enzyme se mettait en route quand on en avait besoin, c'est-à-dire quand le lactose était présent dans le milieu de culture. Donc il y avait cette notion que la présence d'un composé, qu'il appellera après ça l'inducteur, c'était le lactose, eh bien ça déclenchait le fonctionnement du gène permettant la synthèse de l'enzyme, la bêta-galactosidase.
Et en quoi c'est révolutionnaire ça ?
Ben, personne n'avait compris ce genre de choses, qu'on pouvait avoir des gènes qui étaient mis en route à la demande.
C'était
pas une idée qu'on avait à l'époque. On pensait qu'il y avait les gènes, mais personne ne se préoccupait de savoir quand ils s'exprimaient, s'ils s'exprimaient tout le temps ou pas. Mm-mm. Donc là, manifestement, devait exister un mécanisme permettant de mettre en route un gène à la demande.
À la demande. Et donc c'est ça qui va lui valoir, en 1965, le prix Nobel de physiologie ou de médecine. Il le reçoit avec François Jacob et André Loif, que vous avez cité tout à l'heure. C'est cette découverte qui...
Oui, alors, il n'y a pas que celle-là. Il y a eu le travail qui a été fait sur la bêta-galactosidase et le lactose, dont je viens de vous parler. Mais entre-temps, il commence à travailler avec François Jacob. Et il se trouve que François Jacob a fait des travaux sur un bactériophage. Un bactériophage, c'est un virus de bactéries. Et il est tombé sur un phénomène un peu comparable aussi, de mise en route de gènes, si vous voulez, à la demande chez le phage. Et c'est donc ces deux observations qui ont conduit à l'idée générale du modèle qui a été proposé par François Jacob et Jacques Monod. Et ce fameux modèle qu'on appelle le modèle de l'opéron.
Donc, de l'opéron.
L'opéron, oui. L'opéron, bon, c'est un ensemble de gènes impliqués dans un même circuit métabolique et qui sont l'un à côté de l'autre, et leur mise en route est faite simultanément.
Pour bien comprendre la révolution qu'engendrent ces découvertes, aujourd'hui, quand un médecin cherche à comprendre pourquoi une cellule cancéreuse se comporte de façon anarchique, il utilise des concepts que Monod a posée. Est-ce qu'on peut dire que sans Jacques Monod, on ne comprendrait pas le cancer comme on le comprend aujourd'hui ?
Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'initialement, après avoir proposé ce modèle, et je dois dire qu'en plus le modèle a été démontré quelques années plus tard,
après le prix Nobel qu'il a reçu.
Mais au moment où ils ont proposé le modèle, ils ont dit, est-ce que ça ne pourrait pas expliquer le fait que chez un individu, on a le même ADN dans toutes nos cellules, mais pourtant, nos cellules sont différentes. Ça suggère que ce sont des gènes différents qui sont exprimés dans les différentes cellules. Dans la peau, ou dans le foie, ou dans le sang, etc., ça doit être des gènes différents. Et ils ont proposé que ce soit des systèmes de régulation, comme ceux qu'ils ont trouvés chez les bactéries, qui expliquaient le fait que des gènes différents étaient exprimés dans les cellules différentes. Alors en fait, c'était un peu naïf, on le voit maintenant rétrospectivement, il y a beaucoup de phénomènes différents qui permettent la régulation. Le concept de l'idée qu'on puisse réguler l'expression des gènes, ça c'est vraiment Jacob et Monod, mais les mécanismes sont très différents et quelquefois beaucoup plus complexes. Ce qu'on peut dire effectivement, et ça va dans le sens de votre question, c'est qu'effectivement, si une cellule devient cancéreuse, c'est qu'elle échappe à certains mécanismes de régulation et qu'elle se développe d'une façon anarchique au lieu d'être contrôlée comme elle devrait l'être.
Indirectement, c'est lié. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la grande intuition de Jacques Monod qu'on peut retenir, c'est qu'il a choisi d'étudier les bactéries, les êtres vivants les plus simples qui soient, pour comprendre à plus large échelle comment fonctionne le vivant.
Oui, alors ça, on peut le dire rétrospectivement, mais il ne s'est pas dit ça au départ.
Non.
Lui, il s'est posé des problèmes, il a vu comment les bactéries poussaient, il a vu ces phases de latence, etc. Donc il a essayé progressivement d'expliquer les choses, et puis après, ça a débouché sur des généralisations possibles. Mais il ne s'est pas dit, je veux comprendre l'éléphant, donc je vais étudier la bactérie, même s'il y a une phrase célèbre de lui qui dit tout ce qui est vrai pour Escherichia coli est aussi vrai pour l'éléphant.
Mais il a dit ça a posteriori. Je voulais parler maintenant de l'engagement moral de l'homme que vous avez commencé à aborder. Jacques Monod, ce n'était pas l'image du scientifique collé à son laboratoire et coupé du monde. Au contraire, il était à l'écoute de son temps et profondément engagé. Vous avez parlé de l'occupation et de ses actions de résistant. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette période ? Parce que je crois qu'il a été très actif dans la résistance.
Oui, il a été, Jacques Monod était très actif pendant la résistance. Il s'est même fait une fois arrêté par la Gestapo. Il est arrivé
à être lâché.
Et donc, il a côtoyé la mort à plusieurs reprises. Et puis, à la libération, il a rejoint l'état-major de l'Ade de Tassigny. Il y a même une photo de lui en train de parler avec, notamment, de l'Ade de Tassigny. Donc, il a été très impliqué dans la résistance. Il s'est beaucoup caché à l'Institut Pasteur, dans les caps de l'Institut Pasteur. Il est arrivé à se cacher.
Pendant l'occupation, oui.
Bon, il a joué un rôle très important, mais le détail, je ne peux pas vous le donner.
Et donc, son engagement se poursuit aussi après la guerre, puisque Jacques Monod, il a soutenu ouvertement, par exemple, la légalisation de l'avortement. Et puis, avant ça, il y a eu aussi mai 68. Le mouvement ne l'a pas laissé indifférent. Le biophysicien Stuart Edelstein travaillait dans son laboratoire à Paris, pendant les événements en 68, l'Américain était alors en doctorat de biochimie, et on va écouter son témoignage.
Il était sûrement, il parlait anglais parfaitement. Il était toujours très sympathique, mais quand j'ai dit aux gens de l'extérieur que je travaillais avec Jacques Monod, ils ont dit « Oh, il devrait être très difficile », parce qu'à l'extérieur, il donnait l'impression d'être assez dur.
Vous êtes arrivé donc en France en 67-68. Est-ce que vous les avez connus, les événements de mai 68 ?
Oui, bien sûr. J'ai vécu mai 68. Il y avait un climat vraiment de tension, mais je suis resté. Et Jacques Monod, il est célèbre pour avoir participé très directement. Il y avait une nuit la plus sanglante où il est quasiment montré sur les barricades avec les étudiants. Il a téléphoné le ministre de l'Intérieur pour dire que les policiers étaient en train de commettre des choses très mauvaises et il a essayé d'apporter un peu de sécurité aux étudiants qui étaient en train de manifester. Il avait un courage, il est connu parce qu'il avait une grande responsabilité dans la résistance.
J'ai cru comprendre que c'était votre premier séjour en Europe. Est-ce qu'il vous a introduit un petit peu à la culture française, à sa littérature, Jacques Monod ?
Il m'a encouragé de passer moins de temps au labo. Le système américain était qu'on était quasiment scotché au labo tout le temps, le soir, le week-end, mais c'était pas le cas en France.
Donc on comprend bien que Jacques Monod a toujours été animé d'un sens profond de l'engagement poétique, mais cet engagement, il était lucide et, comment dire, éloigné de tout militantisme aveugle. Ça, c'est un point que vous vouliez rappeler, Maxime Schwartz.
Et un autre épisode important, ça a été sa position vis-à-vis de Lysenko. Alors, il faut savoir que pendant l'occupation, les communistes ont joué un rôle extrêmement important et Monod s'était rattaché à ce moment-là au Parti communiste. Il a été au Parti communiste pendant un certain temps. Et puis, entre-temps, on sait ce qu'est devenu l'URSS. Il y a eu ce fameux pseudo-généticien Lysenko qui a complètement détruit la génétique en Union soviétique. Et Monod a publié un article en disant que Lysenko n'était absolument pas un scientifique, c'était scandaleux, etc. Et qu'il ne pouvait pas s'associer. Il a quitté le Parti communiste à ce moment-là.
Il a pris ses distances.
Sa position vis-à-vis de Lysenko a été quelque chose de très important.
Maintenant, je voulais parler de son rôle aussi qu'il a occupé à l'Institut Pasteur. Parce que vous avez, vous, Maxime Schwartz, dirigé l'Institut Pasteur, comme Jacques Monod. Avant de parler du rôle de Jacques Monod à l'Institut Pasteur, peut-être on peut rappeler ce que représente cette institution, l'Institut Pasteur, dans l'histoire de la médecine française. Beaucoup, la quasi-totalité des prix Nobel de médecine obtenus par la France, sont allés à des chercheurs de Pasteur. Comment expliquer une telle concentration de génie dans un seul endroit ?
Alors, l'Institut Pasteur, on ne va pas faire toute l'histoire de l'Institut Pasteur, mais l'Institut Pasteur a joué un rôle majeur en santé publique, depuis sa création. Il était très en avant vers la période de la Deuxième Guerre mondiale, avec la mise au point de vaccins en particulier, de choses comme ça. À la fin des années 60, l'Institut Pasteur était dans une assez mauvaise situation, d'une part sur le plan financier, et puis scientifiquement, il y avait quelques laboratoires, et à ce moment-là, il y avait déjà effectivement les laboratoires Jacob Monod qui étaient très connus, puisque 65 c'était le prix Nobel, mais il y avait quand même beaucoup de laboratoires qui n'étaient pas tout à fait à la hauteur. Donc l'Institut Pasteur a traversé une crise très difficile.
Et c'est dans ce contexte.
C'est à ce moment-là qu'il a été nommé, que Monod directeur. A été nommé directeur de l'Institut Pasteur, et qui s'est attaqué à tous les problèmes à la fois. Du point de vue financier, il est arrivé à obtenir un soutien important de l'État, et en ça, il a été beaucoup aidé par Simone Veil, qui était à ce moment-là ministre de la Santé. Il a remis de l'ordre dans la
structure, il a réorganisé.
Pour l'Institut Pasteur. En même temps, il a engagé une politique de communication. Je me souviens, moi j'ai participé à la première journée portes ouvertes Institut Pasteur, qui était tout à fait une nouveauté, ça n'existait pas à l'époque. Il a fait aussi quelque chose d'important pour ce qu'on appelait à l'époque les instituts pasteurs d'outre-mer, dont il y avait plus qu'une vingtaine un peu partout. À l'époque, il y avait uniquement des relations bilatérales entre l'Institut Pasteur à Paris et chacun des instituts du réseau. Et il a commencé à créer une structure où c'était un peu une structure en réseau. C'est moi qui, après, ai introduit beaucoup plus tard la notion de réseau, mais il avait commencé dans ce sens-là. Bon. Donc il a fait beaucoup de choses à la fois, et on peut vraiment dire qu'il a sauvé l'Institut Pasteur. Sans lui, probablement que l'Institut Pasteur aurait fait faillite au début des années 70.
Oui, il a eu un bilan très positif. Un an avant sa nomination à la direction de l'Institut Pasteur, il a publié un livre qui a fait date, un livre de philosophie, « Le hasard et la nécessité ». C'est un livre qu'on peut relire aujourd'hui, il est accessible au grand public.
Oui, alors en fait, ce livre fait suite à la nomination de Monod comme professeur au Collège de France. Et donc, il avait fait une leçon inaugurale, et le livre est un peu une expansion, si on veut, de cette leçon inaugurale. Donc, c'est un peu une philosophie de la science, disons, un peu le néo-darwinisme, on pourrait dire. En tout cas, ça fait entrer dans le domaine public un peu les débats sur la science, c'est le lien entre la science et la société, etc.
Et la philosophie et aussi.
C'est un livre qui a eu un très très gros succès. Il est accessible, il a été réédité, il est relativement facile à lire. Alors, il est un peu démodé malgré tout, parce que, Ça, c'était en 71 ou quelque chose comme ça.
70,
donc ça
fait pas mal, le livre est paru en 70.
Donc ça fait pas mal d'années.
Alors, Jacques Monod meurt prématurément à 66 ans, en 76. Et dans l'article que vous lui avez consacré, vous écrivez, vous dites que ses derniers mots furent « Je cherche à comprendre ». Ce sont vraiment les derniers mots qu'il a prononcés ?
Bon, moi, je n'étais pas présent. Non. Je suis venu... aussitôt quand je l'ai appris, parce que pour moi c'était un drame, pour moi c'était un peu mon père spirituel, beaucoup d'amitié pour lui, et je ne m'attendais pas, moi je n'étais pas au courant de la maladie qu'il avait, il n'en avait parlé à personne, donc sa mort est arrivée, un choc terrible, donc je n'étais pas là quand il est mort, bon, je connais les gens qui étaient là, on dit qu'il a dit ça, je ne peux pas le garantir.
Vous avez rédigé pour France Mémoire une notice qui retrace son parcours, et cette notice vous l'avez intitulée « Les mille et une vies de Jacques Monod », parce que en plus d'aimer la science et d'être un très bon scientifique, Jacques Monod, vous l'avez dit, aimait la musique, il aimait écrire, c'était un grand sportif. C'est un homme qui a vécu l'humanité dans toutes ses dimensions. Et c'est peut-être ça, finalement, qui fait toute la grandeur de Jacques Monod.
Oui, il a été un très grand scientifique. Il a été un meneur d'hommes, d'une certaine façon. Et puis, comme vous le venez de le rappeler, il a été un musicien. Vraiment, moi, j'ai eu la chance de faire partie d'un petit orchestre qu'il dirigeait. C'était vraiment un très grand plaisir. Bon, il est sportif, il a fait beaucoup de rochers d'escalade.
Sur le mur d'escalade, oui, à Fontainebleau.
Après ça, en montagne aussi. Et puis, il aimait beaucoup naviguer.
Il était skipper.
Son prix Nobel a permis d'acheter un bateau. Donc, il était un très bon skipper. C'était quelqu'un qui était très, disons, ouvert sur l'extérieur. Moi, par exemple, j'ai souvent comparé Jacob et Monod. Je les aimais tous les deux beaucoup, mais ils avaient des personnalités complètement différentes. Jacob était beaucoup plus introverti, très concentré sur ce qu'il faisait, etc. Et même si c'était un excellent professeur... Il ne se mettait pas tellement en avant, disons, dans les sociétés. Au contraire, Monod était très plus volubile, ouvert, etc.
Est-ce qu'il va y avoir une actualité particulière sur la commémoration du cinquantenaire de la mort de Jacques Monod ?
Je sais qu'il va y avoir une séance à l'Institut Pasteur le 2 juin. Il va y avoir projection d'un film de l'INA que je ne connais pas, ou je ne crois pas connaître, sur Monod. Et un historien des sciences, et Laurent Loison, je crois qu'il s'appelle, va un peu commenter ceci. Bon, moi, je serai présent, mais je n'interviens pas particulièrement. Mais donc, il y aura une séance, je ne sais pas, de 2 heures concernée à Jacques Monod. Peut-être qu'il y aura plus que ça, mais il y aura au moins ça à l'Institut Pasteur.
Un grand merci à vous.
De rien.
Pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus, je rappelle que vous avez écrit 2 articles qui rendent hommage à Jacques Monod. Le premier est disponible sur le site de La Vie des Sciences. Et puis vous avez également écrit une notice pour France Mémoire, la mission des commémorations nationales. Nous mettrons ces 2 articles dans la page de notre émission. Merci, monsieur.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.